man. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon. Bienvenue à la causerie sur Radio Canu 102.2. On est le dimanche 8 mai.
Bravo.
Il est 22h et quelques brouettes. Bravo encore, non ?
Rebravo.
Félicite, merci, c'est gentil. Et ce soir, une émission littéraire et pas que. Et donc ce soir, on va rappeler les principales informations pour rentrer en contact avec nous et tout ça, tout ça.
L'étape qui tourne, l'eau.
Quoi?
Pour rentrer en contact avec nous, quoi, voilà.
Oui, donc. Ad spiritum, je ne sais pas, quel facile. Oui, donc nous avons un blog, n'est-ce pas?
Tout à fait. Nous avons un blog, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Mais aussi un mail.
lacauseriecanu@gmail.com.
Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook.
Tout à fait.
Et je... Oui.
Tu veux pas dire qui est autour de
moi? Mais c'est ce que j'allais faire, mon Dieu, c'est terrible. Donc, ce soir, autour de la table, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Clara à la technique.
Bonsoir.
Avec le numéro suppléant, Jonathan à la technique.
Bonsoir.
Ah, et avez... Emma qui nous ravit de sa présence.
Eh ben, ça démarre bien.
Bon. C'est à mon rire, voilà. Hein, c'est ce que j'ai envie.
Voilà. Et moi, j'ai juste envie de dire.
On fait des bisous aux absents.
Voilà.
Et ceux qui ont tort.
D'accord. Et bonsoir, Tatiana. C'est bien moi au micro. Voilà. Parce que quelqu'un qui m'écoute, qui ne croyait pas que c'était moi. Donc j'en profite. Voilà. On y va?
Bah oui. On y va.
Oui, oui.
Ah bah oui, c'est toi Fab, tu vas nous...
Tu voulais nous parler d'un bouquin.
Ouais, je voulais vous parler d'un livre de Poul Anderson. Alors oui, c'est son vrai prénom, Poul, et Anderson c'est son nom. Et le livre s'appelle « Tozero ». Alors, pourquoi je voulais vous parler de ce livre? Bah, parce qu'en fait, il est classé parmi les meilleurs livres de science-fiction de ces 100 dernières années. Donc c'est pas rien, parce que c'est assez rare quand même qu'un livre fasse à peu près l'unanimité comme celui-ci. Et voilà, donc j'avais envie de vous causer un petit peu d'où il venait ce Poul Anderson. Donc Poul Anderson, c'est un auteur qui est né en 1926, qui est mort en 2001 et qui est un auteur de science-fiction américain. Il écrit aussi de la fantasy. Il a beaucoup inspiré un gars qui a fait une série de livres qui marche pas du tout, qui s'appelle Game of Thrones, je crois. Enfin, je sais pas si vous connaissez.
Non,
absolument.
Voilà. donc voilà, enfin, un petit gars qui fait de la, voilà. Et en fait, Poul Anderson a été un des premiers, justement, à créer dans la fantasy des univers qu'on appelle complexes, c'est-à-dire avec plein de royaumes qui s'entrechoquent ou de personnages qui s'entrechoquent. Voilà, et ça c'est dans sa partie fantasy. Par contre, en science-fiction, il est reconnu pour faire souvent ce qu'on appelle de la hard science-fiction. Oui, ça fait bizarre quand on le dit comme ça. Mais en fait, c'est de la SF qui s'appuie sur la physique qu'on connaît, enfin sur toutes les données scientifiques qu'on connaît au moment où la personne écrit. C'est-à-dire, par exemple, si vous écrivez, comme c'est le cas dans ce livre, un voyage dans l'espace, vous vous inspirez de tout ce qu'on sait sur comment on peut voyager dans l'espace.
Oui, ce qui rend la science-fiction un peu moins fictionnelle ou voilà, enfin, je sais pas
très
comment
réaliste
dire.
En fait. Okay. En fait, il y a plein de gens qui disent que les gens qui font de la hard SF font en fait de ce qu'ils appellent de la hard science, c'est-à-dire de la science poussée à l'extrême. Voilà, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une fiction, parce que finalement, tout est plausible. Vous voyez, c'est pas qu'on peut le faire immédiatement, mais c'est plausible. Donc, il a été 7 fois lauréat du prix Hugo et 3 fois lauréat du prix Nebula pour des nouvelles. Alors, pour les gens qui savent pas ce que c'est, le prix Hugo, c'est quand même un peu la quintessence de l'écriture. C'est là que vous avez une très belle écriture, parce que c'est voilà. Et le prix Nebula, c'est un prix qui est remis aux nouvelles ou aux romans de science-fiction. Et c'est un des prix les plus prestigieux dans la science-fiction, parce que c'est en général, on dit que quand vous avez le prix Nebula, vous serez forcément adapté au cinéma. Bon, bah, c'est pas le cas encore de Poulon-Anderson, mais bon, en tout cas, généralement, ça marche. Voilà. Il a écrit quelques classiques que les gens souvent connaissent, c'est Les Croisés du Cosmos, Rolf Kraki ou le cycle dit de la Patrouille du Temps. Voilà, pour les gens qui lisent de la SF, c'est un peu des monuments. L'homme est un peu controversé parce que d'abord il a toujours été vu comme un fils d'immigrants parce que sa mère est danoise et son papa est suédois. Voilà, il est né aux États-Unis de ses parents là et que du coup il a toujours eu du mal à s'intégrer à la culture américaine. Ouais, voilà, c'est un peu ce qu'il raconte lui-même sur sa vie. Et puis il avait tenu une position un peu qui est aujourd'hui vu en 2016 comme quelque chose d'inadmissible peut-être, mais il était pour la guerre du Vietnam. Alors voilà, comme à peu près 60% des Américains à l'époque, hein, en 1969 et 10. Et en fait, il s'en est expliqué plus tard en expliquant qu'en fait, sur le coup, il avait juste peur de la montée du communisme en tant que dictature. Et qui pensait que faire la guerre était une bonne solution. Il s'est rendu compte avec le temps que c'était une connerie, mais c'est vrai que sur le coup, il a jamais renié que oui, il avait dit qu'il était pour l'intervention américaine. C'est pour ça qu'il est très peu traduit en France, parce que, bizarrerie, dans les milieux de la SF français des années 70, la majorité des gens étaient plutôt des pacifistes ou des gens d'extrême gauche, et donc ils estimaient que Poul Anderson était quelqu'un d'extrême droite, ce qui n'est pas vrai, simplement par rapport à sa position sur la guerre du Vietnam. Et du coup, ils ne l'ont pas traduit à l'époque, et aujourd'hui, il y a des gens qui redécouvrent les romans de Poul Anderson et qui les traduisent, et c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Et donc, Taux Zéro, je vais juste te dire comme ça, c'est un livre qui a inspiré deux petits frères qui s'appellent les frères Nolan pour écrire un tout petit film qui n'a pas marché, qui s'appelle Interstellar. Voilà. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a quand même, c'est quelqu'un qui compte dans la SF vraiment beaucoup. Et il y a un autre gars qui s'appelle James Cameron qui s'est inspiré d'une nouvelle à lui qui s'appelle Call Me Joe. Et pour faire un tout petit film qui n'a pas marché non plus, qui s'appelle Avatar. Voilà. Donc c'est quand même...
Ouais, il n'a pas beaucoup de talent, quoi.
Ouais, il n'a aucun talent. Et puis surtout, il n'inspire pas du tout les gens. Mais alors, c'est intéressant parce que Poul Anderson, il a la particularité de beaucoup mêler sa vie personnelle à ses récits. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Dans Taux Zéro, en fait, on est après la Troisième Guerre mondiale, qui a explosé pour de viles raisons, même pas politiques, mais purement sur les matières premières. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore découvert la fusion nucléaire, donc en fait on manque un peu de pétrole, tout ça, tout ça, puis on commence à se taper sur la gueule pour avoir les dernières gouttes. C'est très peu décrit dans le livre, mais on le comprend par les dialogues des personnages que c'est ça qui a donné... voilà. La Troisième Guerre mondiale se termine parce qu'on découvre en fait la fusion, et donc du coup on a de l'énergie quasiment illimitée, donc il n'y a plus vraiment lieu de se taper sur le coin. Puis surtout, ils ont rayé, a priori, on comprend qu'ils ont rayé une bonne partie de la planète par des bombes nucléaires. Donc, au bout d'un moment, faut s'arrêter. Et puis, la Suède est désignée comme étant un pays pragmatique et juste, et donc c'est la Suède qui est désignée pour faire régner l'ordre dans le monde entier. Voilà. Donc, partout, vous avez des Suédois. Voilà, c'est-à-dire que les Suédois sont de partout. Voilà, mais c'est le début du livre. Et en fait, on comprend que Poul Anderson, il avait un lien avec son papa qui était un peu bizarre, papa qui était suédois, et il disait, bon, papa, il est pas dictateur, mais il a toujours raison. Donc, vous voyez, c'était un peu le sens du truc. Et en fait, c'est un peu ce qu'il décrit, c'est-à-dire que cette solution qui, au départ, devait être intéressante, d'avoir un État qui était garant de la paix, tourne en fait à une forme de dictature molle. Et lui, il dit, c'est une dictature douce psychorigide, c'est-à-dire avec le côté très suédois, très un peu froid, un peu sur la retenue. Et donc, lui décrit l'univers, on part de ça. Et puis, comme la Terre est un petit peu dévastée, il faut aller chercher d'autres mondes pour vivre. Et il s'avère qu'à côté d'une toute petite étoile, qui est qu'à 32 années-lumière d'ici, qui s'appelle Beta Virginis, pardon, Si Georges m'écoute, je suis désolé, je vais écorcher le nom des planètes et des étoiles. Il y aurait 3 planètes qui seraient potentiellement habitables. Donc, il faut aller voir sur place. Et le Conseil scientifique mondial met au point un vaisseau qui s'appelle Leonora Christina et qui est un vaisseau à propulsion et qui permet en fait d'aller très 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 vite, ce qui permet de faire de très grandes distances en distordant l'univers. Waouh ! Ça, c'est classe. Et oui, souvenez-vous, quand Georges nous avait parlé des trous noirs, il nous expliquait que plus quelque chose est massif et plus ça tord le temps. Et en fait, c'est exactement ce que fait ce vaisseau, c'est qu'il va très très vite. Et donc, plus vous accélérez, plus vous avez de célérité, plus vous avez une masse importante. Et donc, plus le temps autour de vous passe vite, alors que pour vous, il ne bouge pas. C'est un peu bizarre, mais quand vous lirez le livre, vous comprendrez. En fait, pour faire simple, pour faire ces 32 années-lumière, il faudrait que 10 ans. À la vitesse qui est capable d'atteindre le vaisseau tel qu'il est prévu. En fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a une postface dans le livre qui explique que tout ce qui est écrit est plausible, à condition qu'on découvre ce qui permet la propulsion et tout, mais enfin qu'on le mette en œuvre, parce qu'on sait déjà que ce serait faisable, mais qu'on le mette en œuvre. Et en fait, effectivement, ils disent que on pourrait effectivement comprimer le temps et donc arriver plus vite que 32 ans. C'est-à-dire qu'on arriverait, c'est comme si on allait plus vite que la lumière. Sauf qu'en fait, en réalité, non. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est la fameuse relativité d'Einstein. Voilà. Ne ris pas, Jean-Yves.
Non, mais je voudrais juste donner l'info aux auditeurs et auditrices. Et quand il dit c'est un peu compliqué, c'est parce qu'il regarde Emma et moi.
Non !
Et qu'on est complètement.
C'est parce que vous êtes en face de moi, c'est tout. Donc voilà. Donc du coup, ça vous est expliqué dans le livre, par exemple, comment ça fonctionne. Donc, le vaisseau va partir avec 50 personnes, 25 hommes, 25 femmes, pour en fait créer une nouvelle extension de la Terre sur une nouvelle planète. C'est une forme de colonisation, hein, comme on peut appeler ça. Sachant quand même qu'il y a dans l'idée de ne coloniser qu'un monde qui n'aurait pas d'espèces vivantes aussi intelligentes que l'être humain.
Bien sûr.
Voilà. Non, mais en fait, c'est l'idée qu'on va pas aller faire la guerre pour coloniser. C'est un petit peu l'idée. C'est ça, c'est qu'on n'arrive pas chez des gens en disant, maintenant, c'est chez nous. Voilà. Donc, il y a cette idée-là. Donc, les 50 personnes sont sélectionnées. Et il y en a 3 en particulier qu'on va suivre tout le long du livre. Donc, c'est un gendarme. C'est un peu son grade. Qui, lui, s'appelle Charles Raymond. Et c'est un prolo, athée, qui vient de Russie, qui a travaillé dans les mines et, en fait, qui est devenu un peu gendarme malgré lui. C'est parce qu'en fait, il est très fort en arts martiaux et il a un très fort caractère. Et du coup, les gens se disent, il est bien, lui, pour la sécurité et la sûreté. Voilà. On va suivre un capitaine qui s'appelle Télandier, qui est français et qui a tous les défauts des Français dans le livre. Ça qui est très marrant, parce qu'on voit que Poul Anderson ne nous aime pas trop. Et on va suivre Ingrid Lindgren, qui est, elle, suédoise, et donc qui est la capitaine en second, qui est imposée par le code suédois, ce qui s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il faut un Suédois dans chaque aventure, vu que c'est eux qui garantissent la paix. Vous voyez, et qui est quand même une très grande scientifique. Donc on va les suivre. Ils vont commencer à démarrer, tout va bien se passer, et évidemment, dans le livre, va se produire l'imprévu, c'est-à-dire l'accident. Ils vont croiser un amas d'hydrogène sur leur voyage, qui n'était pas prévu au passage, et ça va les dérégler un peu les instruments de bord, et ils vont devoir continuer à avancer, mais surtout, ils ne vont plus pouvoir freiner. Donc, ils vont accélérer. Et c'est là qu'on en vient au titre. Taux zéro. Alors, taux, ça s'écrit T-A-U et zéro, pas comme zéro. Et le taux, en fait, c'est la constante de la célérité, du rapport à la célérité. C'est-à-dire que c'est la constante par rapport à la vitesse de la lumière. Plus cette constante est faible, plus vous allez vite, plus vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, et en fait, plus vous distordez l'espace et le temps. Ça veut dire, pour faire simple, dans le livre, c'est très bien expliqué, mais pour faire simple, quand vous arrivez à une célérité très très élevée, en fait, le temps autour de vous va se mettre à passer beaucoup plus vite. Et c'est comme ça que, par exemple, une seconde dans le vaisseau va bientôt équivaloir à 7 millions d'années à l'extérieur du vaisseau. Vous voyez, c'est ce qui va se produire parce qu'ils vont accélérer, ils ne pourront plus s'arrêter et ils vont prendre une masse de plus en plus forte. C'est ce qu'ils expliquent, c'est que le vaisseau a une masse équivalente du fait de sa vitesse. D'abord à un petit astéroïde, puis à une planète, puis à une étoile, puis à une étoile géante, puis à un mini trou noir. Et donc, ils ont une masse énorme, mais qui est liée à leur célérité. Et donc, ils distordent le temps autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils traversent le temps, y compris. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est des notions un peu complexes. Mais le livre permet justement de jongler avec ces notions, et c'est vachement intéressant. Et comme ils peuvent pas ralentir, bah, ils peuvent qu'avancer au départ, tant qu'ils n'ont pas réparé une partie du vaisseau. Donc ça, je peux pas vous raconter plus, ça vous donnerait tout le truc du livre, ça n'aurait aucun intérêt. Mais le livre soulève quand même des réflexions assez intéressantes. Par exemple, ça soulève une réflexion sur la vie. C'est quoi le but de la vie ? Parce qu'au départ, eux, leur but, c'est d'aller coloniser une planète. Et là, d'un seul coup, bah, leur but, c'est de survivre. Comment on passe d'avoir un but à la survie ? Est-ce que tout le monde y arrive ? Est-ce qu'on se met à déprimer ? Est-ce qu'il y en a qui se suicident ? Est-ce que, voilà. Donc ça, c'est un des trucs très intéressants du livre. La deuxième chose, c'est qu'il y a une énorme réflexion dans le livre sur l'autorité. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs que Poul Anderson est très loin d'être d'extrême droite. Parce qu'il fait une grosse réflexion sur la notion d'autorité, de quand on confie l'autorité à quelqu'un, est-ce qu'il faut qu'il la garde tout le temps ? Est-ce que la personne ne serait pas en droit aussi de dire « mais moi je la veux pas en fait, votre autorité, là vous êtes bien gentil, mais c'est pas parce que je suis le plus carré ou cartésien que j'ai envie d'être votre autorité permanente ». Et puis surtout, est-ce que l'autorité c'est toujours bon ? C'est-à-dire à un moment donné, est-ce que l'autorité c'est pas aussi quelque chose qui nous freine dans notre façon de voir le monde et des choses comme ça ? Et du coup, ça entraîne dans le livre une réflexion sur la croyance, et notamment la croyance en Dieu. Parce qu'en fait, ce sont des scientifiques, mais une partie est croyante et une autre partie est athée. Et du coup, ceux qui sont croyants, on se rend compte qu'ils se limitent. Parce qu'en fait, il va falloir qu'ils inventent des choses pour survivre. Parce qu'en fait, il va falloir qu'ils créent des nouveaux instruments, il va falloir qu'ils fassent des choses nouvelles qui n'étaient pas prévues. Il va falloir qu'ils soient innovants, en fait. Et en fait, ceux qui sont croyants, bah, des fois, ils s'en remettent un peu facilement à Dieu en disant « bah, je vais aller prier ». Et en fait, il y a le gars à côté qui dit bah, au lieu de prier, on ne pourrait pas passer au labo plutôt parce qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Donc il y a plein de réflexions qui sont très intéressantes sur ce qui est le moteur de l'humanité. À travers cet échantillon de 50 personnes, il arrive à nous poser des réflexions très importantes et très intenses sur ces choses-là. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le livre, il est scientifiquement carré, c'est-à-dire que tout ce qui est décrit dedans est potentiellement possible, mm-hmm. et tout vous est expliqué. Parce que le fameux gendarme, qui n'est pas scientifique, lui, à chaque fois, il vient un petit peu en candide. Il dit aux gens, non mais attends, tu me dis que là on va pouvoir faire ça, mais comment on va le faire en fait ? Et donc eh ben, le scientifique va avoir un dialogue avec lui qui va expliquer et vulgariser des notions qui peuvent paraître très complexes. Et en fait on sort du livre en se disant, putain en fait c'est vachement bien. Et on comprend des choses qui sont de la physique quantique quand même. Donc on monte à des degrés très, très importants et très intéressants. Il y a quand même 2-3 petits trucs qui sont un petit peu embêtants dans le livre, on va le dire clairement. C'est qu'il se base quand même sur ce qui était connu. Le livre est de 1970, donc il y a des toutes petites découvertes quand même assez importantes, le boson de Higgs, des choses comme ça, qui ne sont pas encore faites en 70. Donc il y a des petites erreurs factuelles, mais que Poul Anderson contourne parce qu'en fait il est très à la pointe des recherches de l'époque. Donc il prend y compris ce qui était théorique à l'époque et qui est devenu aujourd'hui vérifié, ce qui permet d'avoir un livre très cohérent. Et c'est ce qu'il explique dans le livre. Plus on accélère, donc ce que je vous disais, plus on prend en masse, plus on distord le temps. Et ça va plaire aux fans de Star Trek, parce que dans Star Trek, on se déplace avec la distorsion. Et ben c'est exactement ce que le livre décrit. Et on apprendra d'ailleurs dans la biographie de Poul Anderson que c'était un grand copain du mec qui a créé Star Trek. Donc vous voyez, il a influencé beaucoup de choses dans la littérature SF, et dans le cinéma et les séries. Donc c'est un très bon livre pour aborder des thèmes, et surtout ce qui est intéressant, c'est d'arriver à aborder ces thèmes avec un regard pragmatique, parce que du coup il y a énormément de science. Donc c'est la notion d'univers, de multivers, je vous dis des trucs terribles, les limites de l'univers. Le multivers, c'est la notion qu'il y aura 2 univers ou 3 univers ou 4 univers côte à côte, et qu'en fait on pourrait passer de l'un à l'autre. C'est l'histoire des dimensions parallèles potentielles, tout ça, et tout ça est abordé de façon assez intéressante. Par contre, le livre il date de 70, donc il a quand même des petits trucs qui sont un peu gênants. Par exemple, bah pour Poul Anderson, les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels n'existent pas. Parce que sur ces 50 personnes qu'il choisit, c'est marrant, il n'a pas la proportion des fameux 10% de personnes qui seraient d'une sexualité différente ou d'une aspiration de genre différente. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, c'était des balbutiements et qu'il ne l'a pas intégré dans son corpus. Et puis que l'homme était un petit peu, avait un petit côté conservateur sur certains aspects de la vie. Et que ça sent dans son livre, c'est un peu emmerdant. La deuxième chose, c'est la place des femmes. Et c'est Poul Anderson, lui, il est des années 70, quoi. Et on est au début du féminisme. Et très clairement, on sent que lui, il n'a pas pris le courant tout de suite. Hein. C'est-à-dire que les femmes, elles sont toujours un petit peu bébêtes, elles font toujours des crises d'hystérie, elles sont toujours. Voilà, donc c'est un petit peu agaçant. Mais ça fait partie des défauts du livre. Et puis il y a quelques anachronismes amusants, comme le fait que les ordinateurs impriment encore. C'est-à-dire qu'ils sortent des mètres et des mètres de papier, alors que bon, bah, aujourd'hui, on sait que tout s'inscrit sur des écrans ou des tablettes, voilà, donc ça fait partie des anachronismes. Mais le livre est très intéressant parce qu'il pose plein de questions sur l'humanité, sur son rapport à l'autorité, à Dieu, à la survie, à soi-même, et au fait que ben, des fois, il faut se dire... Bah tant pis, si on doit claquer, autant claquer dans un beau feu d'artifice plutôt que de se laisser mourir. Et voilà, c'est tout ce que le livre porte. Moi, je l'ai trouvé vraiment passionnant, je vous le conseille. J'en dis pas trop parce que je pense que la moindre info donnée sur le livre vous gâcherait le livre, parce que c'est un livre à rebondissement, donc c'est un peu dommage si on vous raconte tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Suédois sont des gens très sympas dans ce bouquin, mais qu'on sent que Poul Andersson n'aimait pas trop son papa.
Donc voilà. Tu rappelles le nom et tout et tout.
Ouais, c'est Poul Andersson, taux zéro. Je vous conseille d'acheter ça ou de le louer à la médiathèque, à l'édition Pocket, parce que c'est eux qui ont mis la préface et la postface sur le livre. La postface est faite par un scientifique qui explique justement si oui ou non tout ce qui est écrit dedans. C'est Roland Lehoucq, qui est astrophysicien. Et la préface est faite par Jean-Daniel Breck, qui est un auteur de science-fiction. Et c'est très intéressant, en fait, justement, parce qu'il y a le regard de gens d'aujourd'hui sur le travail de Poul Andersson des années 70. Et c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est quand même hallucinant de voir à quel point il s'est trompé sur très, 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 très peu de choses, ou vraiment à la marge par rapport à ce qu'il a écrit. Et du coup, quand vous sortez du livre, vous vous dites, mais en fait, la science, c'est pas compliqué quand on me l'explique avec des choses simples. Et en fait, un roman, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est vraiment très agréable de lire un roman d'aventure, parce que ça reste un roman d'aventure. Et puis de tutoyer les étoiles, quoi. Mmh. Voilà. Donc vraiment, je vous le conseille.
On va peut-être prendre deux exemplaires, Emma. Non. Toi et moi, ouais, ça
oui.
Sert. L'exemplaire. Enfin bon, bref.
Et puis moi, je vous le dis, c'est si vous écoutez les émissions qu'on fait avec Georges sur l'astronomie, vous retrouverez dedans des notions que Georges a abordées et que j'ai compris autrement qu'avec Georges. C'est-à-dire parce que du coup, par la fiction, et du coup, ça permet des fois de se dire ah bah oui, j'avais bien compris ou voilà. Mmh. Et c'est bien. Voilà. Musique ?
Allons-y.
Et oui, un extrait de la bande originale du film Le Cinquième Élément dans la causerie sur Radio Canu de 22h à 23h avec Eric Serra hein, qui a écrit cette musique. Voilà, et c'était juste parce que ça collait bien au sujet. Emma, tu nous emmènes dans des univers virtuels maintenant ? Des choses qui dévient notre jeunesse, c'est ça ?
Pardon ? Je n'étais pas au courant.
Un jeu vidéo, quoi.
Oui, ce soir, j'avais envie d'introduire le sujet des jeux... S'il vous plaît. D'introduire le sujet des jeux vidéo et surtout, en fait, du, l'univers occupé par les jeux vidéo et surtout par... la sphère des joueurs et joueuses, et de vous parler en fait d'un jeu que moi j'ai testé, qui m'a beaucoup plu, mais surtout en fait qui a été assez révolutionnaire sur plusieurs aspects. Donc voilà, moi je vais surtout en fait parler de ce jeu au niveau du féminisme. Donc voilà, je vais déjà présenter en fait le jeu et après je vous en dirai un peu plus. Donc le jeu s'appelle Gone Home. Il est édité par la compagnie The Fulbright Company et il est sorti en août 2013. Alors pour ceux qui s'y intéressent, donc il est disponible sous Windows, sur Mac et sous Linux. Et en 2016, début 2016, ils ont édité pour PlayStation 4 et Xbox One. Donc voilà, il est déjà disponible maintenant sur pas mal de plateformes. Et ce qui est intéressant en fait, donc Fulbright Company, ils n'ont pas énormément de jeux, on va dire, à leur actif, mais c'est vrai qu'ils se sont fait connaître grâce à lui. Et c'est un studio de développement de jeux indépendants qui a été monté par trois personnes. Je crois que c'est deux hommes et une femme qui étaient tous développeurs et qui en ont eu un peu marre en fait de ne pas avoir du tout de liberté au niveau de leur choix artistique. Et donc ils ont monté en fait Fulbright Company qui est basée dans l'Oregon. Et à Portland, pardon. Et du coup, ce qui est intéressant aussi par rapport à Fulbright Company, c'est que ils décrivent même les trois qui vivent un peu en communauté. Ils se voient plus comme une bande que vraiment comme des collègues. Et c'est vrai qu'ils parlent assez de leur système. Ils ont opté pour une autogestion. Voilà, ils sont tous au même grade. Ils arrivent très bien à se... Ils parlent même pas de tâches ni de missions. Enfin voilà quoi. Ça, enfin, je trouve que leur compagnie est intéressante pour ça. Et donc voilà. Donc ils ont édité Gone Home, qui est un jeu donc qui se passe dans les années 90 dans l'Oregon. Donc ça aussi c'est assez marrant parce que du coup c'est un petit clin d'œil à la ville où est basé le studio. Donc on reste vraiment très local. Et donc on incarne en fait un personnage du nom de Caitlin qui rentre chez elle. Alors on ne sait pas vraiment, mais sûrement après un an à l'étranger ou un très très long voyage. Et toujours est-il en fait qu'elle arrive et qu'elle trouve la maison close. Et quand on arrive à rentrer dans la maison, elle est totalement vide. Donc voilà, ça pose un peu l'histoire. Et en gros, voilà, l'histoire narrative, on déambule de pièce en pièce à la recherche d'indices qui pourraient expliquer le départ précipité de sa famille. Ce qui est assez marrant au niveau de la conception du jeu, c'est qu'il n'y a pas, dans la plupart des jeux comme ça, où on a la recherche d'indices, quand on clique normalement sur un indice, il y a une petite flèche qui apparaît pour nous indiquer qu'effectivement cet indice est à prendre. Là, et c'est pour ça aussi qu'il y a un fort pouvoir narratif et qu'on est tout de suite pris dans l'immersion du jeu, c'est qu'il n'y a aucun objet qui clignote. C'est-à-dire qu'il y a plein, il y a des mots, il faut vraiment fouiller dans les placards et s'emparer de tous les objets, tout lire, que ce soit des journaux intimes, les journaux voilà, d'actualité, tout, parce qu'il n'y a pas vraiment un indice qui serait plus fort qu'un autre. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà aussi au niveau de l'ambiance, ce qui est un peu marrant, mais bon, c'est vraiment de se replonger dans les années 90, c'est très bien fait à ce niveau-là, que ce soit au niveau des décors, des posters de l'époque, parce que du coup, elle, bon, on imagine qu'elle a peut-être une vingtaine d'années, mais donc du coup, voilà, c'est des posters, c'est les VHS de l'époque et tout un tas d'objets qui vous rappelleront des bons souvenirs.
Ou pas.
Et elle, on la voit ou pas ?
Je reviendrai après là-dessus.
Je pense qu'il y avait des tenues aussi des années 90.
Non, alors je reviendrai à la fin sur son personnage. Mais donc du coup voilà. Et Caitlin, alors elle joue, on joue seul. Et en fait on on collecte, enfin quand on collecte des objets, on se rend compte en allant dans son ancienne chambre que c'était quelqu'un d'assez indépendant, qu'elle avait une personnalité assez forte. Et alors, je peux pas trop en dire non plus sur l'intrigue. C'est un jeu qui se joue vachement rapidement. Hein. Il faut, pour les meilleurs, l'on fait en pratiquement une heure. C'est ça aussi qui est un peu critiqué au niveau du jeu. Mais en tout cas, il veut, en tout cas, on peut prendre plus de temps et déambuler dans les pièces, prendre son temps. Mais en tout cas, l'énigme se résout assez rapidement. Et il y a des choses très, très intéressantes au niveau de la personnalité du personnage principal. Et il y a des thèmes en fait qui sont abordés dans le jeu qui sont pas abordés d'habitude dans l'univers des jeux vidéo. On parle par exemple de harcèlement scolaire, des relations familiales, de l'intimité. Et voilà, c'est là où je ne peux pas trop spoiler, mais je vais quand même donner quelques indices. Il y a aussi pas mal d'indices, d'objets sur la découverte de la sexualité du personnage principal. Et vraiment, c'est ça qui fait que le jeu est totalement immersif. Que ce soit, on se surprend à, voilà, c'est ça, à fouiller dans les tiroirs. En tout cas, on est très vite pris au jeu. Et alors, voilà, moi, ce qui m'intéressait dans le jeu, hormis l'univers, parce que je crois qu'il a reçu, il a été globalement très, très bien reçu par les critiques. Il a reçu un award pour la meilleure histoire narrative. Et c'est vrai que, voilà, dans le pur monde des catégories, c'était c'était un peu révolutionnaire, en tout cas, à ce niveau de jeu. Mais aussi, ce qui est très appréciable, c'est effectivement qu'on incarne un personnage féminin et que tout le long, on le voit pas. Enfin, on la voit pas. Donc voilà, on n'a pas la silhouette, on ne voit pas son visage, et surtout en fait sur les photos elle apparaît assez floue. Donc, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que ça a été souligné par une large gamme de mâles joueurs en disant « Ah oui, mais le jeu est moins intéressant, nous on aurait bien aimé incarner, voir au moins sa silhouette. »
Ah, ils voient pas leur Lara Croft quoi, ils sont pas contents.
Ils sont pas contents. Alors que ça leur pose aucun souci quand le personnage est un homme et qu'on voit pas, qu'on le voit pas non plus quoi.
Oui, c'est ça, parce que ça existe déjà.
Bien sûr,
fait.
Ça existe déjà.
Okay, non, okay. D'accord.
Mais là, ils savent que c'est une femme.
Oui, là, ils
donc,
savent que c'est une femme.
Ça les dérange.
Ça les dérange. Et du coup, voilà. Donc, en tout cas, je le conseille. C'est Gone Home, et ça me fait penser à d'autres petits jeux que je peux citer. Donc il y a Metroid qui est un vieux jeu. Ce qui est marrant sur Metroid, c'est que justement, c'est ce qu'on parlait, on incarne un personnage qui est en armure, enfin avec un espèce de scaphandre, enfin un casque.
J'adorais ce jeu.
Mais c'est les années 80.
Oui, 90, je sais. Mais il y a eu Metroid Prime après, qui était plus tard.
Mais le premier, c'est les années 80. sur NES. Et Metroid, voilà, il y a un petit twist à la fin. Alors, je ne sais pas si on peut le révéler, mais en fait.
Si, c'est connu.
Si, on peut le révéler, je crois que c'est assez connu. Mais pendant tout le long, en fait, on incarne un personnage qui est vachement. Qui est très fort, voilà. Et à la fin, le personnage enlève son casque. Et on s'aperçoit en fait qu'on, depuis le début, on incarne un personnage féminin, blonde, de surcroît. Et voilà.
Et c'était une volonté des créateurs à l'époque qui en avaient marre justement. C'était pour répondre au mode des Sentai, c'est-à-dire ces mâles qui, vous savez, les chevaliers du zodiaque, tout ça, machin. Okay. Et ils avaient envie de créer un personnage pour dire mais pourquoi ce serait pas une femme ? Voilà, il a un peu grugé les joueurs, c'était bien.
Voilà. Et un autre jeu alors, dont je voulais parler, alors là, j'ai pas l'expérience. De gameuse là-dessus, mais on me l'a fortement conseillé. Il s'appelle Life is Strange. Et en plus, il est édité par une compagnie française indépendante. Et donc, en fait, c'est un jeu. Alors, on remonte un peu dans le temps et on incarne, pareil, un personnage féminin. Et il aborde un autre thème qui est très intéressant. Il aborde des questions LGBT. Alors par contre, je préfère mettre un petit Tiger Warning. Il y a des scènes assez violentes, surtout au niveau des agressions physiques. Mais ce qui est intéressant au niveau du jeu, c'est qu'il y a de, quand il est sorti, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont demandé à ce que le personnage principal s'appelle Max, parce qu'en fait, elle s'appelle Maxine, et on lui a dit, mais est-ce que ce serait pas possible plutôt de l'appeler Max, comme ça, ça fait neutre, et puis voilà, et ils ont essayé un peu de modifier aussi le personnage. Et la compagnie a strictement refusé et a bien fait parce qu'ils ont trouvé de toute façon un éditeur sans trop de soucis. Et le dernier dont je voulais parler ce soir rapidement, c'est The Last of Us qui est sorti en 2013. Et ça se passe dans un monde qui aurait été ravagé plus ou moins par une attaque zombie. Et on peut incarner un personnage adolescente qui s'appelle Ellie et qui est super débrouillarde et qui n'a pas besoin, en fait. C'est l'un des rares personnages, enfin, c'est l'un des rares jeux où on a un personnage de jeune adolescente qui s'en sort très bien toute seule et surtout qui n'a pas besoin d'être secourue. J'avais déjà parlé, c'est pour ça aussi que je voulais évoquer le sujet ce soir, d'Anita Sarkassian, je vais arriver, qui avait fait toute une série de vidéos sur les femmes dans les jeux vidéo et qui avait notamment parlé de ces femmes. Enfin, il y avait plusieurs catégories, les femmes comme le décor et aussi il y avait les femmes qui avaient besoin d'être secourues, qui était là mais qui avait toujours besoin, enfin même quand il y avait des personnages féminins, c'était toujours l'homme qui allait résoudre au final l'énigme, c'était l'homme qui portait secours. Et là c'est vrai qu'avec cette petite série de jeux, on a des héroïnes qui sont indépendantes, qui arrivent à résoudre elles-mêmes leurs énigmes et voilà.
Moi j'avais une question quand même, c'est ce genre de jeux, ils sont reçus comment globalement en fait, enfin...
Ça dépend. Gone Home a été quand globalement très bien reçu, même voilà, après les critiques qui ont été faites, j'ose imaginer que c'est la minorité aussi qui va justement taper du sucre sur Anita et tout ça, quoi. Donc j'espère, j'ose imaginer qu'ils représentent, comme je le disais, une minorité. Mais voilà, globalement, non, ils sont bien reçus. Metroid, alors je crois qu'il avait quand même été assez bien reçu.
Alors moi qui étais de cette époque-là,
voilà,
tu peux en parler.
Merci, dis-nous.
Alors Metroid, il avait une particularité, c'est que c'était un des jeux les plus difficiles de l'époque. C'est-à-dire que pour le terminer, c'était extrêmement dur. Donc quand il est sorti, personne ne connaissait la fin, parce qu'il fallait terminer le jeu pour savoir avoir le fameux twist final. Et donc tout le monde le trouvait génial jusqu'au jour où quelqu'un l'a terminé et a dit oh, mais c'est une nana. Et là il y a quelques couillons qui commençaient à dire oh ben non c'est nul machin. Sauf qu'en fait, bah, depuis il y a 52% des gamers qui sont des gameuses hein, aujourd'hui, et que c'est pas étranger à ça aussi d'avoir aussi des personnages féminins, et il en faut, et heureusement qu'il y en a d'ailleurs, et il faudrait enfin même plus.
Ça reste, ça reste très minoritaire en fait.
Ça reste très minoritaire au niveau des jeux d'avoir des super, enfin des héroïnes, et c'est surtout ce qui est, enfin au niveau des critiques, ce qui est assez drôle, c'est-à-dire, enfin je pense qu'aujourd'hui oui voilà, il y a des personnages féminins mais qui sont hyper sexualisés, mais des personnages féminins safe, indépendantes, il y en a très peu, et c'est surtout voilà, les critiques qui sont faites, on en parlait tout à l'heure, c'est encensé par les gamers qui vont dire « Ah mais oui, mais si c'est un personnage féminin, moi j'ai du mal à me reconnaître dedans, quoi, à m'identifier. » Alors que les gameuses n'ont jamais trop posé souci, et c'est surtout que ça leur posait à ces chers gamers aucun souci de s'identifier à Lara Croft quand elle était hyper sexualisée. Mais tout d'un coup, effectivement, quand on a un jeu comme Gone Home, où en plus on voit pas du tout le personnage féminin et elle est floutée sur les photos par rapport à l'intrigue, mais aussi je pense que c'est un vrai souhait de réalisation, tout d'un coup ça leur pose souci, quoi.
Mais c'est mou du bulbe là qui se plaignent. Je trouve ça très très drôle quand même qu'ils aient du mal à s'identifier à une femme, par contre qu'ils arrivent à s'identifier à un orque. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à incarner des orques, ça leur pose pas de problème. Par contre, oh non, pas une femme quand même.
Alors là, je vais faire le gars qui sait absolument rien. Des orques.
Non, mais pas l'orque. Non. Pas l'orque. Pas sauver Willy.
Pas sauver Willy. Les orques étant une espèce humanoïde, un petit peu, voilà. Tu as déjà vu des publicités pour World of Warcraft? Bah, c'est ceux qui sont verts.
Les orques.
Voilà, les orques.
D'accord.
Voilà.
Tu imaginais l'orque?
Non, ouais, je croyais que c'était
pas la baleine.
Willy, non, tout ça.
C'était l'instant geek, on se parlait entre nous.
Oui, voilà, okay. J'essayais de rentrer dans le monde,
mais c'est drôle de voir, voilà, c'est que ça mais même n'importe quel personnage, ou des magiciens, ou des robots, par contre, dès que c'est une femme, pas une femme, quoi. C'est vraiment des mots du bulbe.
Mais complètement, mais par contre, Life is Strange qui apporte, en fait, l'héroïne, c'est pas caché du tout, incarne, enfin, l'héroïne est lesbienne, et pour le moment, il a été quand même assez bien pris, enfin, il a quand même de bonnes critiques, j'ai pas pour le moment vu justement les mots du bulbe s'en étaient emparés.
En fait, je pense qu'une majorité des gamers et gameuses sont plutôt des gens ouverts et qu'il y a quelques couillons au milieu de tout ça. Voilà. Oui, j'aime pas les sexistes, ça m'énerve. Voilà.
Tu voulais rajouter un truc ?
Non, c'est bon, on peut passer.
Pour avoir testé Life is Strange, du coup. Le jeu dont tu parles, c'est un jeu aussi, je pense, qui est vraiment... Enfin, c'est très lent, mais l'intrigue est intéressante. C'est-à-dire qu'on avance tout petit à petit. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont allés très, très loin dans le jeu. C'est très, très lent. Mmh. Voilà.
Donc, tu penses qu'il y en a qui n'ont pas fini
Moi, tu m'as spoilé, par exemple.
Voilà. Et ben on va
mais c'est pas grave parce que je, enfin parenthèse, mais j'aime pas cette culture du spoil, ça m'énerve. On a le droit de dire ce qui se passe.
Mais dans la bande annonce, tu vois bien qu'elle donne la main à une autre fille.
Ouais, par contre, je regarde pas la bande annonce. Et pour moi, les gens qui se donnent la main, ils sont amis. Mais voilà. Mais je crois que
comme les orques sont des animaux marins. Voilà.
Je vais aller réfléchir avec Conception. Non, mais juste voilà pour dire que comme c'est un jeu qui a fait peut-être un petit peu moins de bruit que Gone Home, il y a peut-être ça aussi, il sera moins de joueurs, moins de critiques, quoi. Donc
peut-être,
je sais pas, je ne sais pas, je mettais une hypothèse.
On verra.
On passe à la zik.
Allez.
Allons.
Quoi, ce soir il est dissipé, c'est incroyable.
Ouais.
Vous êtes de retour dans la causerie. On vient d'écouter Evans to Betsy avec Calculated, et c'est une des musiques qui passe pendant qu'on joue à Gone Home. Donc voilà, si vous aimez les Riot Girls et tout ça, c'est très sympa.
Cool,
ok.
Jean-Yves,
ouais,
au lieu de rire comme une baleine depuis tout à l'heure, la gorge déployée, il me semble que tu voulais nous parler d'une BD.
Oui, je voulais vous parler d'une BD qui s'appelle Le Sentier des Rennes. C'est une BD qui a été réalisée par Anthony Pastor. C'est aux éditions Casterman et la BD est sortie, je crois que c'était octobre 2015. Donc avant de vous parler un petit peu plus de l'intrigue, en fait, je vais vous parler quand même de l'auteur, vite fait, son parcours. Donc lui, il a fait une formation d'art plastique, parce qu'en même temps, enfin, je vais faire ce petit truc là, c'est parce que je pense que sa formation, elle va aussi répondre dans certains trucs après de sa, de ses œuvres en fait. Enfin de ses, oh là de là. Son
de son style.
Oui, merci. Oh là là, je suis désolé, j'ai une accumulation de mots. Allez, on se reprend.
Oh non!
Non, mais ça y est, à la fin,
elle s'est
dit.
Allez, je reprends.
J'ai posé une vraie question pour les auditrices et auditeurs, c'est le sentier des reines, ça s'écrit.
Oh non! Mais tu cherches!
Non, c'est de...
Mais n'importe quoi! Ça se passe... Ce que je veux dire, c'est que ça se passe pas en Sibérie, quoi.
En quoi?
En Sibérie? Quoi.
Non, c'est pas avec des reines, genre.
Bah, d'où,
non,
d'où
c'est les reines R-E. INES. Alors, et donc oui, alors ce Anthony Pastor, bah, pardon pour cette aparté rigolote. Il a fait une formation en art plastique et il a aussi fait l'école supérieure des arts décoratifs. Et ensuite, en fait, lui, il a fait cette formation et il a lâché le dessin pour ensuite aller bosser dans le milieu du théâtre pour le décor, enfin au niveau du décor et de l'écriture. Il a écrit déjà pas mal, enfin, il a déjà fait pas mal de bandes dessinées. Alors, je vais vous en citer trois, hein, en plus du Sentier des Reines. Donc, son premier, c'est sa première bande dessinée, pardon, c'est Ice Cream. C'était en 2006, un thriller. D'accord.
C'est rien, c'est mal, on peut plus.
Okay. Ensuite, il y a eu Hôtel Coral, c'était en 2008, c'est pareil, c'est politique, etc. En 2010, il a fait aussi Las Rosas, c'est un roman graphique, et puis il a gardé un rythme à peu près d'un ouvrage tous les deux ans, à peu près. Et donc voilà.
Et donc il fait les dessins et les textes.
Alors ouais, alors après il a encore d'autres trucs où il fait que du dessin, où là je crois qu'il est parti sur un autre projet où il ne fait que le scénario. Donc mais là les œuvres que je, enfin les ouvrages dont je vous ai parlé là, en tout cas que je vous ai cités, c'est ses œuvres à lui, c'est ce qu'il a fait, scénario, dessin et tout et tout. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu plus de donc du Sentier des Reines. Et donc dans cette BD en fait on suit Blanca, Pauline et Florentin. Alors, je vais quand même resituer qui sont à chaque fois ces personnages. Alors, Blanca, en fait, c'est la femme la plus âgée. Son mari était à la guerre, première guerre, c'est en 1920. Donc, il est rentré de la première guerre, mais il est mort dans une avalanche 6 mois après. Elle est suivie, enfin, on suit aussi Pauline, qui accompagne Blanca, qui est en fait sa belle-fille. Elle était mariée avec son fils, qui lui aussi, en fait, était à la guerre, est rentré, mais il est mort aussi dans une avalanche. Et on a Florentin, qui lui est un ado, un pré-ado, je dirais plutôt un ado, pardon, qui lui a perdu ses deux parents aussi dans une avalanche. Donc voilà, donc là on a ces trois personnages. Blanca, c'est un peu la meneuse, c'est un peu Alphonse. Pauline, elle est vraiment plus suiveuse, elle est passive en fait, elle est par moments très passive. Et on a Florentin qui lui alors, est le narrateur et qui en même temps est assez effacé. Parfois, il va venir ajouter un petit élément dans le récit, et puis on l'entend plus. Là aussi, c'est des traits de personnages qui vont évoluer au fur et à mesure. Et alors, vous avez remarqué que oui, ils sont pas mal morts dans des avalanches, hein, quand même. Et en fait, c'est parce qu'effectivement, c'est en Savoie. Enfin, l'histoire se passe en Savoie, en tout cas le départ. C'est donc en 1920, ça je vous l'ai dit. Et pourquoi toutes ces avalanches et tous ces morts, en tout cas, c'est parce que durant les périodes de neige, les gens font du colportage. Ça veut dire qu'on part d'un endroit pour aller dans une autre vallée, pour aller vendre des choses, pour pouvoir survivre. Et avec tous les risques que ça contient, surtout en 1920, hein, c'est pas non plus pareil. Et donc voilà. Et puis, elles, en fait, elles vont partir dans ce truc-là aussi, c'est-à-dire on va faire du colportage. Parce qu'on ne peut pas attendre que quelqu'un ou quoi que ce soit se passe. Il faut qu'on avance, qu'on s'autonomise. Et il y a vraiment de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on avance. Surtout Blanca. Et donc, on replonge aussi dans une société où, pendant la guerre, comme souvent pendant les guerres, c'est-à-dire que les femmes sont amenées à gérer à peu près tout. Tout ce qui n'est pas forcément lié au front de la guerre. Mais elles s'occupent de tout. Et quand les guerres se terminent, ce qu'on demandait aux femmes, et ce qu'on demande souvent aux femmes, c'est de reprendre le gentil petit rôle de la douce soumise et qui reste chez elle. Sauf que là, c'est tout ça aussi. Il y a vraiment un climat où c'est tout ça, quoi. Et l'élément que je trouve intéressant, c'est que leur départ, je vous spoil rien, le départ, c'est vraiment ça se passe pendant la messe. Là aussi, je pense que c'est très symbolique ou très symptomatique d'une société. C'est parce qu'elle savait que tout le monde y serait et qu'elle pourrait partir tranquillement de ce village. Et oui. Et donc voilà, donc c'est vraiment génial et on les suit comme ça pendant ce périple là avec plein de rencontres. Alors autant il y a un vieux poilu qui veut récupérer un truc et ça va partir, enfin il va vraiment être limite un harceleur. Il y a aussi des femmes qui sont en formation d'institutrice. Avec tout ce que ça engendre aussi, parce qu'on est nouveau dans ce basculement en fait, où elle s'occupait de plein de trucs, et là en fait, on rentre dans une période un peu plus crispante. Et puis on a ces personnages qui évoluent vraiment, quoi. C'est-à-dire que, comme dit Blanca, qui est cette meneuse un peu tête brûlée, quoi, et on y va, et ben elle évolue. Florentin, qui est un peu plus effacé, il évolue, et c'est vraiment. Enfin, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et donc voilà, Et quoi d'autre ? Et après, c'est aussi c'est l'entraide, c'est la confrontation aussi. Parce que, et ça, c'est dès le début, hein, on a cette confrontation entre Blanca, encore une fois, cette meneuse, et même sa belle-fille qui lui dit, mais on attend, on reste là. Et elle qui lui dit, mais tu veux qu'on attende quoi, en fait ? On a attendu pendant la guerre que nos hommes aient des permissions, on a attendu leurs lettres, on fait qu'attendre, quoi. Donc, on doit y aller. Et c'est vraiment, j'adore, c'est vraiment génial, quoi. Et avec des confrontations aussi qui sont liées, on retrouve un sexisme qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, mais on retrouve vraiment ça, c'est-à-dire que les gentilles petites femmes, normalement, c'est pas logique qu'elles soient là, etc. Et comment ça se fait, enfin, tout ça. Et puis, quand on veut vendre un truc sur un marché, ça marche moins bien quand on est une femme seule en 1920. Donc c'est tout ça, enfin, c'est vraiment une confrontation au monde de ce moment-là. Elle découvre aussi des ouvrages, je vais les citer quand même, parce qu'elle découvre La voix féministe d'Hélène Brion et un autre ouvrage qui était L'émancipation sexuelle de la femme de Madeleine Pelletier. Donc là aussi, on ajoute de cette envie de s'émanciper, etc. Et qu'il y a aussi cet élément-là, c'est que... on le resitue, mais c'est que ailleurs dans le monde, en tout cas, genre, il cite la Nouvelle-Zélande, pardon, où les femmes ont eu le droit de vote en 1893, et qu'elles sont bien conscientes de ça, en fait, aussi. En tout cas, Blanca, elle est bien, bien consciente de la situation des femmes, en fait, où elles étaient bien là pour s'occuper de tout, sauf que là, maintenant, on va leur dire de rentrer chez elles. Donc, c'est tout ça, c'est vraiment, c'est génial. On a aussi, justement, ce progrès qui arrive. C'est-à-dire qu'elles font du colportage et il y a quelqu'un à un moment donné qui leur dit mais c'est fini quoi. On a le train maintenant, il y a les voitures, et c'est tout ça, on est vraiment dans une époque et alors les dessins de ce Anthony Pastor, et moi j'aime beaucoup, c'est assuré et je trouve qu'on est vraiment dans l'époque. Il y a quelque chose, alors vous avez peut-être pu voir un peu deux trois images, mais moi je trouve qu'on y est vraiment quoi. Il y a autant sur les costumes traditionnels, c'est très, très fermé, très... Ouais, je sais pas comment dire, cloisonné. Les décors d'hiver sont vraiment là. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très bon. Et après, je vais quand même... non, je vais rien te demander, Clara. Mais j'ai remarqué que d'autres personnes avaient fait un peu la même remarque que toi. C'était sur cette fin, où on reste sur sa fin. Et moi, j'ai plutôt aimé ça. Parce que je trouve qu'on revient sur une brève histoire de vie. Ou en tout cas quelque chose... Mais comme ça nous arrive à toutes et à tous, on rencontre des gens qu'on va voir quelques temps et que d'un coup, on n'a plus de nouvelles. Mais on sait qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait une aspiration à. Et effectivement, il y a une frustration, mais je trouve que ça fait aussi partie en tout cas de ce trip-là dans cette BD-là et c'est plutôt pas dégueu. Donc voilà, moi je vous rappelle le titre, c'est Le Sentier des Reines de Anthony Pastor, c'est aux éditions Casterman, et ça doit peut-être coûter 20 balles hein, quand même, je vous le dis, mais voyez pareil dans vos médiathèques et tout ça et tout ça et tout ça.
Ouais, moi je veux juste vous rajouter, parce que j'ai un peu feuilleté, sur le style, moi ça m'a fait penser à des photos d'époque, c'est-à-dire qu'on a l'impression de feuilleter un album d'images des années 20, sans que ce soit négatif, hein, ce que je dis, mais vous savez, il se dégage ce côté un peu sépia.
Mais oui, c'est très. Voilà. Au niveau des couleurs, c'est très désaturé déjà, parce que ça se situe en hiver, mais c'est vrai que le bleu est très pastel, et je pense que c'est ça aussi qui rend cette impression.
Et alors justement, ça c'est plutôt pas mal aussi, c'est à la fin de l'ouvrage, il y a 3-4 pages où l'auteur justement explique un peu sa démarche. Alors déjà il explique que c'est totalement une fiction, mais qu'il a voulu vraiment s'accrocher à des choses réelles. Et il parle justement en fait de ses décors, etc. Il a pu les faire, et même les villages hein, qu'il dessine sous la neige, il les a fait en s'inspirant, peut-être même en copiant, osons le mot, des photos en fait d'époque, les cartes postales d'époque, quoi. Donc il y a vraiment ce travail là, quoi. Et je pense que là aussi on retrouve, c'est ce que je vous disais par rapport à son parcours professionnel, je pense que son écriture dans le théâtre a beaucoup servi, parce que il n'apporte pas tout d'un coup sur un plateau. C'est au fur et à mesure qu'on apprend des éléments des personnages, et je pense que c'est vraiment théâtral, et je pense que le soin à ses décors, en tout cas à l'image, je pense que c'est un peu pareil. Donc voilà, mais je pense que je vais essayer de trouver d'autres ouvrages de lui, parce que c'est assez, assez créatif et assez intéressant. Voilà, voilà, j'ai parlé beaucoup.
Non,
allez,
ça va.
On passe au son. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de la causerie de 22 à 23 heures. Et bon, on est un peu dépassé. Donc on va faire vite. On vient de s'écouter Cause and Cure, du DJ Monkopf. Voilà. Et puis on va peut-être terminer assez rapidement avec des brèves. Je crois que je suis le seul en fait qui en est.
Oui, c'est ça.
Ok, bon bah allez. Alors, premier rendez-vous, c'est mercredi 11 mai à 18h. C'est à la librairie La Griffe. Il y a une rencontre débat avec Olivier Favier, qui est auteur de Chroniques d'exil et d'hospitalité, vie de migrants ici et ailleurs, qui est aux éditions Passagers Clandestins. Le jeudi 12 mai, de 12h à 15h, il y a un rassemblement en place de la Comédie, c'est contre la loi travail.
À l'appel de l'intersyndicale.
Ouais, c'est l'intersyndicale.
Ouais, les sept qui avaient appelé la manifestation précédente.
D'accord. Eh bien, nickel. Eh bien, voilà. Et vendredi 13, il y a une projection débat en présence du réalisateur. Du documentaire Qui a tué Ali Ziri, et ça se passe à la Plume Noire sur les pentes de la Croix-Rousse, le local de la CGA. Je vous ai dit quoi ? C'est à 20h.
20h, ouais.
Voilà. Et ben c'est tout pour les infos.
Oui, moi je voulais juste quand même saluer la mémoire de Bob Siné qui nous a quittés après avoir tenu très longtemps pour emmerder tous les cons, comme il le disait lui-même.
C'est bien.
Il a 87 ans quand même. Hein. Et non, moi c'est... Alors, bien sûr, grand caricaturiste et énorme bonhomme de la provocation, c'est une grande perte pour à mes yeux. Mais en dehors de ça, je pense que s'il avait été, il avait pu faire des derniers dessins après sa mort, il se serait beaucoup marré à caricaturer les journalistes qui annonçaient sa mort et qui, comme il est mort le jour de l'Ascension, expliquaient que c'était une blague de Dieu. Ah oui, on l'a entendu de partout ça. Je rappellerai juste que Siné était athée, bouffeur de curés, anticlérical convaincu, et que quand on prend le temps d'ajouter cette petite phrase, ça s'appelle juste une vengeance de petit croyant sur la mort de quelqu'un. Voilà. Donc ces messieurs de RTL, France Info, iTélé, BFM et compagnie, qui ont tous utilisé la même petite formule bien dégueulasse, et ben, comme aurait dit Bob, je vous chie à la gueule.
Ah. C'est une bonne fin.
Oui.
Et ben voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une causerie. Moi, je voulais aussi rajouter, c'est pas parce que l'agenda il est pas épais que vous pouvez pas aussi sortir de chez vous, aller dans les parcs, regarder les gens, regarder le ciel, aller dans les musées, écouter de la musique dehors dans des salles gratos ou pas. Enfin, vivre quoi.
Bien sûr.
Voilà.
Ah, oui. Faire l'amour.
Aussi.
Ah, je savais que ça allait être
une bonne
réaction.
Ok.
Ben, on fait des bisous à tout le monde, aux admirateurs secrets.
Aussi.
Et, et à ceux qui ne sont pas secrets aussi.
Aussi, à ceux qui sont révélés.
C'est ça. Ben voilà
et
quoi.
Et puis on va remercier Clara et Jonathan pour la technique.
Madame.
Ouais.
Et puis ben, bonne soirée à toutes et à tous, bonne nuit.
Et on se quitte avec quoi ?
Avec Thomas Fersen et le son titre Deux pieds.
Nickel. Bonne nuit.
Salut
à tous.
Bonne nuit.
Ciao.
Ciao.
Et des bisous.
Et des bisous.
Plein de bisous.
Ciao.
Partout.
Allez au couple.
Avec la langue. Ah. C'est dégueulasse.
Allez.
Ciao.
Salut.
On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis désolé. Je n'ai que le pied, je n'ai que le pied, franchement. j'ai